Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Et tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Les gens sont énervés, très énervés. Des boîtes dans tous les sens, c'est plus dangereux que d'habitude.
Plus de 400 km de bouchons cumulés en fin d'après-midi en Île-de-France et ça devrait être sensiblement la même chose demain. Les nerfs des automobilistes sont mis à rude épreuve. Ceux des usagers des transports en commun aussi, d'autant que l'horizon ne s'annonce pas très réjouissant pour demain en tout cas. Assez peu de trains, de métros, de RER et de tramways. C'est mercredi qu'Édouard Philippe fera les annonces sur la réforme des retraites. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a lui ce soir dressé le bilan des concertations avec les partenaires sociaux. Il n'a pas convaincu le leader de la CGT, Philippe Martinez.
Concertation, c'est un mot qu'on entend depuis 2 ans et demi. Je pense qu'on est plus dans une volonté de faire semblant qu'on discute, qu'on écoute, mais qu'on n'entend pas.
31 gilets jaunes jugés pour le saccage du péage de Narbonne, c'était il y a un an. Ils s'en étaient également pris aux forces de l'ordre, contraints de quitter leur caserne. 3 mois de prison avec sursis pour Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire de la perquisition houleuse au siège de la France Insoumise. L'intéressé dénonce un procès politique.
C'est du n'importe quoi. Tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule.
36 produits à base de glyphosate, bientôt retirés du marché. C'est une initiative qui est saluée bien sûr par les défenseurs de l'environnement. Et puis la Russie, sanctionnée pour dopage, exclue pour 4 ans des compétitions internationales. Du côté du ciel, encore de la neige demain sur les massifs des Vosges, du Jura et des Alpes du Nord, gare aux avalanches. Du beau temps autour de la Méditerranée grâce à la Tramontane et au Mistral. À l'ouest, une nouvelle dégradation gagnera la Bretagne et la Normandie. Partout ailleurs, ce sera plus calme. Ne manquez pas les prévisions complètes de Marlène Duré ce soir à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Emmanuel reçoit ce soir Christophe Arnoux. Il est le directeur général d'Asmodée, l'un des grands noms des jeux de société en France. Jeux qui seront les stars de Noël.
Europe 1.
Embouteillage, système D et marche à pied. Les galériens du matin qui ont mis des heures pour aller travailler ont de nouveau galéré ce soir pour rentrer chez eux. C'est peut-être votre cas et c'est particulièrement vrai à Paris, en Île-de-France, même si d'autres grandes villes sont bien sûr également impactées. Le compteur des bouchons s'est affolé. Petit résumé de cette journée de galère en Île-de-France avec Pierre Herbulot.
Plus de 1000 km de bouchons sur toute la journée, digne d'un départ en vacances. Mais c'est bien pour aller travailler que les automobilistes ont tous pris leur voiture en Île-de-France. Premier pic entre 7h30 et 9h. Ces automobilistes rencontrés par François Geffrier savent que la journée va être longue.
Énormément de bouchons. C'est multiplié par 5-6. 3h30 entre Roissy et le 17e. On s'attendait à que les gens prennent leur dispositif et tout, mais finalement... Tout le monde a pris sa voiture pour aller travailler.
Les gens sont énervés, très énervés. Des boîtes dans tous les sens, c'est plus dangereux que d'habitude.
Alors, pour s'offrir un retour un peu plus tranquille, certains ont eu l'idée de rentrer plus tôt. Presque tous, en fait. Résultat, deuxième pic de bouchons à 17h30.
J'en ai marre. Enfin, là, j'ai mis 2 heures pour venir ce matin. Et là, bah, je vais mettre à peu près 1 heure pour rentrer, quoi.
Voilà, donc une heure là, de plus le matin, une heure de plus le soir.
C'est ça, voilà. Donc on fait comme on peut, on part en décalé, demain télétravail.
Comme elle, un automobiliste me disait qu'il s'était arrangé avec son patron pour aménager ses horaires demain et ainsi éviter la même galère qu'aujourd'hui.
Et voilà le reportage de Pierre Herbulot aux côtés des Franciliens. Des bouchons, mais aussi des quais de gare bondés, ou parfois déserts. En tout cas, dans l'attente d'un hypothétique train, les mêmes scènes se sont répétées un peu partout en France, notamment à la gare de Lyon-Part-Dieu.
Moi je rentre à Eyrieux, dans l'Isère. Là je sais même pas si je vais pouvoir rentrer. Et jusqu'à demain, demain je sais même pas si je vais pouvoir partir, etc. quoi. Le bus le matin, soit il est plein à craquer, soit il passe pas. C'est compliqué. Même moi là je sais pas comment je vais faire. Là je vais essayer de voir s'il n'y a pas des amis à Lyon pour rejoindre chez eux, mais c'est mal barré. Là je suis mal.
Là c'est vraiment la cata quoi. Ce soir il y en a deux. D'habitude j'en ai un tous les heures. Les directs il n'y en a pas, il n'y a que ceux-là. Là. Les petits où on s'arrête partout et moi je descends en Berrieux. Au terminus et puis on va être serré comme des sardines là, comme c'est parti. On va jouer des coudes déjà pour essayer de monter dans le train, en espérant qu'ils ne nous mettent pas un seul wagon, voire 2 wagons, pas plus. Parce que des fois, ils nous mettent des tout petits wagons. Je commence à en avoir ras-le-bol. Parce que normalement, ils nous avaient parlé que du 5, et puis maintenant, c'est 6, 7, le 8. Et on s'attend à ce que ça va être prolongé au moins jusqu'à Noël, fin d'année. Et ça commence vraiment à être stressant et à peser sur notre santé, on va dire.
Des habitants de la région lyonnaise qui galèrent au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Et il faut aussi se préparer au pire pour demain, puisque les perturbations seront donc équivalentes à celles d'aujourd'hui. Il n'y aura pas d'amélioration, a prévenu le secrétaire d'État au transport. Ça veut dire à la SNCF, un TGV sur 5 seulement, 3 TER sur 10, un intercité sur 6. En Ile-de-France, un transilien sur 5, RER A et B uniquement aux heures de pointe et 10 lignes de métro totalement fermées. Air France annule 25% de ses vols intérieurs et 10% de ses moyens courriers. Et alors que la France tourne au ralenti et que les Français galèrent depuis jeudi dernier, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a présenté cet après-midi ses conclusions, laissant à Édouard Philippe les annonces. Ce sera mercredi, le Premier ministre présentera l'architecture de la réforme et tentera d'éteindre l'incendie. En attendant, donc, Jean-Paul Delevoye ne s'est pas trop mouillé ce soir, se contentant de lister les points d'accord et de désaccord.
Je note une demande forte de garantie des droits qui auront été constitués avant la réforme. Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point. Je constate en revanche des positions contrastées s'agissant de l'entrée en vigueur du nouveau système. Les organisations syndicales et patronales n'ont pas la même vision des choses sur la prise en compte de l'allongement de l'espérance de vie dans la durée travaillée et des leviers à actionner pour assurer l'équilibre de notre système de retraite en 2025.
Jean-Paul Delevoye cet après-midi avec Jean-Rémy Baudot. Le MEDEF reproche au gouvernement son manque de clarté sur cette réforme des retraites. Le patronat appelle l'exécutif à expliquer rapidement aux Français en quoi consiste ce projet. Sur Europe 1 ce soir, le leader de la CGT, Philippe Martinez, affirme lui que le compte n'y est pas. L'opinion est de notre côté, dit-il. Demain sera une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation dans toute la France et la CGT songe déjà à répéter l'exercice jeudi. Pas du tout convaincu donc par le bilan dressé par Jean-Paul Delevoye.
Concertation, c'est un mot qu'on entend depuis 2 ans et demi. Vous voyez, c'est pas nouveau. Nous avons fait des propositions. Est-ce que M. Delevoye a parlé de la diversité des propositions de la part des organisations syndicales? En tout cas, je ne l'ai pas entendu restituer les propositions de la CGT. Donc, je pense qu'on est plus dans une volonté de faire semblant qu'on discute, qu'on écoute, mais surtout qu'on n'entend pas.
Donc, qu'est-ce que vous espérez dans la bouche d'Édouard Philippe mercredi? Philippe Martinez, retrait pur et simple de cette réforme.
Bien sûr qu'ils prennent en compte ce qui s'est passé jeudi et ce que dit l'opinion publique.
Donc si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un retrait pur et simple annoncé par Édouard Philippe,
le gouvernement aura la responsabilité de la poursuite et de l'amplification du mouvement.
Philippe Martinez, qui était l'invité du Grand Journal du soir de Nathalie Lévy sur Europe 1. Les ministres concernés par cette réforme des retraites sont tous convoqués à l'Élysée demain, à la veille de la prise de parole d'Edouard Balladur, puisque je vous le disais, c'est à midi mercredi que le Premier ministre dévoilera l'architecture de cette réforme. La journée de demain sera par ailleurs marquée par une nouvelle mobilisation au niveau national, avec des manifestations à Paris entre les Invalides et la place d'Enfer Rochereau. Dans les cortèges, il y aura notamment des enseignants. En conséquence, les parents devront encore trouver des solution de garde demain. Et puis ça n'a rien à voir avec cette réforme des retraites, mais 4 syndicats de la branche du transport routier et de la logistique appellent les salariés à faire grève lundi prochain, c'est-à-dire le 16 décembre, pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire. Europe 1, comme tous les jours à vos côtés, dès 5h demain matin avec Julien Pierce et à partir de 6h avec Mathieu Béliard.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci de nous écouter. Il y a un an, dans l'Aude, plusieurs dizaines de gilets jaunes s'en prenaient violemment à des gendarmes ainsi qu'aux locaux de Vinci, au péage sud de Narbonne. 31 d'entre eux comparaissent devant la justice depuis aujourd'hui, un procès qui va durer 10 jours et qui a commencé, Benjamin Peter, par le visionnage des images tournées ce soir-là.
Oui, des images pour la plupart diffusées par les manifestants eux-mêmes sur les réseaux sociaux. On a pu les voir incendier des véhicules de gendarmerie, faire des rodéos avec les fourgons des patrouilleurs. Des vidéos aussi de gilets jaunes paradant avec un képi et une veste de gendarme dérobée après qu'ils ont dû abandonner les lieux à la hâte. Et puis ce véhicule de chantier soulevant une voiture en flammes pour la déposer sur le péage de Narbonne Sud. Mais pour maître Frédéric de Rinaldo, qui défend l'une des prévenues, il y a eu un effet de foule et beaucoup se sont laissés entraîner.
J'espère qu'en tout cas ces débats vont justement permettre de faire le point entre les casseurs et entre ceux qui ont été aspirés, mais qui soient jugés bien sûr pour ce qu'ils ont fait. Je parle plutôt des petits que je représente, pour ce qu'ils ont fait, mais aussi pour qui ils sont dans la vie. C'est-à-dire des gens qui étaient à ce moment-là aussi en souffrance et qui, dans leur vie de tous les jours, du quotidien, sont de braves gens.
Et d'ailleurs, cet après-midi, les 3 hommes qu'on a vus défiler à la barre étaient loin d'être les leaders de ce saccage, poursuivis pour avoir profité du chaos pour voler des outils ou même des boîtes de Playmobil prévues pour le sapin de Noël des salariés de Vinci. « Je suis là, devant 50 personnes, pour un vol de Playmobil », a résumé l'un d'eux, dépité. Je crois que je suis déjà assez humilié comme ça.
Benjamin Peter au palais de justice de Narbonne pour Europe 1. Jean-Luc Mélenchon ne fera pas appel de sa condamnation à 3 mois de prison avec sursis dans l'affaire de la perquisition houleuse au siège de son mouvement en octobre 2018. Le leader de la France insoumise devra également s'acquitter d'une amende de 8000 euros. Il dénonce ce soir un jugement politique.
3 mois avec sursis, on voit bien qu'on est dans le grand n'importe quoi judiciaire dans ce pays. Je ne sais pas, moi, peut-être que si j'avais volé une bicyclette, c'est ce qui me serait arrivé. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le pays est à côté de ses chaussures. La justice, la police, tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule. Au total, les, comme on appelle ça, parties civiles, c'est-à-dire les gens dont les oreilles ont été molestées par nos cris, avaient demandé 130 000 euros. Et nous avons au total 30 000 euros. Franchement, je pense que qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, quand même c'est possible, hein, je l'admets. Mais 7 jours d'arrêt de maladie pour quelqu'un à qui j'ai crié « ma personne est sacrée », franchement, les gens vont se précipiter pour venir se faire engueuler par moi, hein.
Voilà Jean-Luc Mélenchon, micro européen de Chloé Triomphe. Patrick Balkany reste en prison. Sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée par la cour d'appel de Paris. Willy Bardon, qui s'est réveillé à l'hôpital 3 jours après avoir ingurgité un pesticide suite à sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle dans l'affaire Kulik, a fait appel du verdict. Son état de santé n'inspire plus d'inquiétude aux médecins. L'ancien président de l'université Aix-Marseille, Yvon Berland, sera soutenu par La République En Marche pour les prochaines élections municipales à Marseille. Il a 68 ans et il a été préféré au député LREM Saïd Ahamada qui avait annoncé sa candidature quoi qu'il arrive. Préféré également au doyen de la faculté de droit, Jean-Philippe Agresti. C'est un soutien, pas une investiture, précise bien le parti. Cette désignation met en tout cas fin à plusieurs mois d'hésitation de La République En Marche. L'Agence française de sécurité sanitaire a annoncé aujourd'hui le retrait de 36 produits contenant du glyphosate. Leur autorisation de mise sur le marché ne sera pas reconduite à la fin 2020. Qu'est-ce que ça signifie, Virginie Salmen ?
Eh bien, ça signifie que la sortie du glyphosate est en route. La France a décidé d'interdire progressivement cet herbicide entre 2021 et 2023. Et donc, chaque autorisation de mise sur le marché de produits qui contiennent cette molécule est épluchée. Ça a été le cas, par exemple, de 4 références de la marque Roundup. Le groupe Bayer a dû produire des études qui sont passées au peigne fin pour prouver qu'il n'y a pas de risque génotoxique. En vain, explique le docteur Caroline Semaille, directrice générale déléguée de l'ANSES.
Un risque génotoxique, c'est un produit qui peut endommager l'ADN et à terme, le risque, c'est qu'il y a un risque de cancer. On n'a pas, nous, là, d'inquiétude sur un risque génotoxique, mais on a souhaité être extrêmement vigilant et pouvoir l'exclure à tout prix. Or, les données dont on disposait ne nous permettaient pas, parce que les données étaient incomplètes ou insatisfaisantes, d'exclure ce risque. C'est pour ça qu'on a souhaité retirer les produits.
Ces 36 herbicides sont donc soit utilisés pour l'agriculture, soit pour désherber des voies de chemin de fer, par exemple. Ils vont être retirés du marché et ne pourront plus être utilisés à compter de fin 2020.
Les précisions de Virginie Salmen pour Europe 1. Une petite rectification, il paraît que tout à l'heure ma langue a fourché. Je vous ai parlé d'Edouard Balladur, alors que je voulais évidemment vous parler d'Edouard Philippe. Je suis sûre que vous aurez corrigé de vous-même. Je vous prie de m'excuser pour cette langue qui a malencontreusement fourché. En Nouvelle-Zélande, les autorités affirment qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. 5 personnes sont mortes, 8 autres sont portées disparues, prises au piège par l'éruption subite du volcan White Island. C'est une zone très touristique. Un sommet ce soir à l'Elysée sur le processus de paix en Ukraine avec Emmanuel Macron, Angela Merkel ainsi que les présidents russes, Vladimir Poutine et ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il s'agit de tenter de relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. C'est la première fois que le président russe rencontre son nouvel homologue ukrainien. L'affaire du chantage à la sextape, un procès se rapproche pour Karim Benzema. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Ça veut dire que rien ne s'oppose désormais à ce qu'il soit jugé en correctionnel. Et puis il n'y aura pas de drapeau russe aux prochains Jeux Olympiques. La Russie mise au banc du sport international pour avoir falsifié des résultats de contrôle antidopage. Sanction valable pour 4 ans, Axel May, ça veut dire pour les JO l'été prochain, mais pas seulement.
Oui, la position de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, est la suivante. Pas de Russie aux prochains Jeux d'été à Tokyo, ni aux Jeux d'hiver de 2022 à Pékin. Alors dans le même temps, les athlètes russes réputés propres pourraient participer aux JO sous bannière neutre, comme c'était déjà le cas aux derniers Jeux d'hiver à Pyeongchang. Écoutez la réaction du président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia.
Il faut que tous les athlètes qui ont la capacité de prouver qu'ils sont étrangers à toutes ces manœuvres puissent effectivement participer aux Jeux tant de Tokyo que de Pékin. Ce qui m'a surpris dans la sanction, c'est qu'effectivement elle soit étendue à toutes les compétitions internationales type championnat du monde, y compris la Coupe du monde de football. Donc on passe d'un pays organisateur en 2018 à un pays exclu en 2022.
Car c'est là, après ces accusations de tricherie répétées, que l'Agence mondiale antidopage a eu la main particulièrement lourde. Les JO ne sont pas la seule compétition internationale concernée. Ces sanctions peuvent toutefois encore être dénoncées devant le tribunal arbitral du sport. Et depuis Moscou, le Premier ministre Dmitri Medvedev dénonce, lui, une hystérie anti-russe devenue chronique.
Les précisions d'Axel May du service des sports d'Europe 1. Et puis Canal+, la revanche, la chaîne cryptée qui avait perdu les droits de diffusion de la Ligue 1 au profit de Mediapro et de Beansport, va pouvoir continuer à diffuser une partie de la compétition. Un accord a été conclu avec Beansport pour la période 2020-2024. On jette un œil tout de suite sur la météo.
Peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, les pneus 4 saisons Hankook s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous ce soir, Marlène Duré, avec une bonne nouvelle pour les amateurs de neige en montagne.
La neige va continuer en effet, Isabelle, à blanchir les cimes des Vosges, du Jura et des Alpes du Nord, avec une limite pluie-neige assez basse tout de même et un risque d'avalanche à ne surtout pas négliger. Il va neiger encore un petit peu demain matin et puis ensuite le soleil revient. Autour de la Méditerranée, il fera beau grâce à la Tramontane et au Mistral, en particulier en début de journée avec des pointes à 90 et 100 km à l'heure. Et puis à l'ouest, une nouvelle perturbation gagnera progressivement la Bretagne et la Normandie, avec des pluies faibles en général qui vont quand même se renforcer dans le Finistère en cours d'après-midi, le tout accompagné de vent. Partout ailleurs, une accalmie avec un soleil qui aura parfois du mal à percer. Le ciel s'annonce plus lumineux à l'est d'une ligne Reims-Pau. Les températures maximales ne seront pas éloignées des normes de saison, avec 4 degrés dans le Doubs, à Morteau par exemple, 5 à Verdun, il fera 6 à Chalon-sur-Saône, 9 à Paris, 10 degrés à Toulouse et Angoulême, 13 à Lorient et jusqu'à 17 degrés à Cannes.
La météo signée Marlène Duré.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général d'Asmodée. A tout de suite sur Europe 1. À 22h17, comme tous les soirs, on va s'intéresser maintenant sur Europe 1 à la bourse. Et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et la semaine, Claire, démarre en petite forme pour les marchés à Wall Street.
Oui, les indices font marche arrière après une belle hausse vendredi. Le Dow Jones perd 0,38% à 27 909 points. Le Nasdaq, lui, recule de 0,40% à 8 622 points. C'est l'économie chinoise qui inquiète. Ce soir, Pékin a annoncé un quatrième mois consécutif de baisse de ses exportations. Un recul dû, bien sûr, au conflit commercial avec les États-Unis. Ce conflit, il dure depuis plus de 18 mois et il pourrait monter d'un cran dans les prochains jours puisque Donald Trump pourrait encore décider d'imposer de nouvelles surtaxes dimanche sur des produits chinois. Le groupe français Sanofi fait parler de lui à Wall Street. Il a cassé sa tirelire pour racheter la société Synthorx, rachat pour 2,5 milliards de dollars. Synthorx développe notamment des traitements pour prolonger la vie des malades du cancer. L'action, elle flambe ce soir de 170% à Wall Street. Et du côté des devises, l'euro est quasi stable autour de 1,1060 $.
Et le marché parisien, lui, repart en baisse également.
Oui, l'indice parisien marque une pause après trois séances de progression. Il perd 0,59% à 5 837 points. Sanofi a pesé sur le CAC 40. Le titre perd 2% après donc avoir annoncé le rachat de l'entreprise américaine Synthorx. Et puis dans le même secteur, Ipsen perd encore plus de 5%. Le groupe pharmaceutique a annoncé vendredi la suspension partielle de plusieurs études cliniques.
Et le titre Air France KLM finit également en baisse.
Moins 0,6% pour Air France KLM malgré la hausse du nombre de ses passagers en novembre, mais la grève en France et les annulations de vols pèsent sur le titre. Les marchés européens ont clôturé en baisse ce soir. Londres perd 0,1%, Francfort moins 0,5%, moins 0,3% pour Madrid, Milan lâche 1% et à Paris, le CAC 40 perd 0,6% à 5 837 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du journal de la nuit.
C'est l'heure de l'invité éco avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi sur Région Job et Paris Job.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général d'Asmodée.
Bonsoir Christophe Arnoux.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Asmodée. C'est un des grands noms du jeu de société en France. Vous avez des jeux aussi connus que Les Aventuriers du Rail. J'ai envie de dire que c'est un peu de circonstance en ce moment. Vous avez Jungle Speed, vous avez Time's Up parmi tous les jeux que vous avez créés, que vous avez rachetés ou que vous distribuez. On va commencer justement avec la grève. Est-ce que ça vous inquiète en ce moment? Est-ce que de façon très pratique, ça pénalise votre activité pour livrer tous ces jeux que l'on va acheter ou que l'on va recevoir à Noël?
Alors je dirais que pour l'instant non, les enseignes ont passé toutes leurs commandes de Noël, donc les produits sont déjà dans les points de vente. Maintenant, ce sera plus pour les consommateurs, pour se rendre dans les magasins, qui peut poser problème.
Mais... Est-ce que vous avez l'impression que les enseignes, vu qu'on connaissait la date de la grève, on savait qu'elle était potentiellement reconductible, est-ce qu'ils avaient un petit peu surstocké, comme on dit, avant ce mouvement?
Alors on a fait un très bon mois d'octobre et un très bon mois de novembre, donc on peut penser effectivement qu'ils ont déjà anticipé. Pour l'instant, nous on n'a pas de soucis pour livrer les magasins et donc continuer à faire les réapprovisionnements.
Alors vous êtes l'un des grands noms du jeu de société en France. Asmodée, on ne connaît pas obligatoirement, mais on connaît les jeux que j'ai cités au démarrage, comme le Jungle Speed ou Time's Up. On a l'impression que le jeu vidéo résiste à tout, et notamment au digital. Comment vous l'expliquez ?
Alors, le jeu de plateau résiste à tout, oui. On a vu ce phénomène d'intérêt de la part du public sur les jeux de plateau depuis une bonne vingtaine d'années. Ça se renforce chaque année de plus en plus. On voit qu'on touche toutes les classes sociales et on a aussi une grande partie de féminisation, de notre clientèle. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Mais pourquoi vous avez l'impression que ça marche de mieux en mieux ?
Alors, je pense que les gens ont besoin de se retrouver, de partager des émotions. Et ça, c'est de se raconter des histoires aussi, parce que dans nos jeux, il y a aussi des histoires, il y a des univers qu'on peut explorer. Et aujourd'hui, on a, innové dans nos jeux pour que ça soit de plus en plus facile, plus accessible. Souvent, on parle de la barrière de la règle, et aujourd'hui, les fascicules de règles sont de plus en plus légers. On a des systèmes pour apprendre le jeu tout en jouant. Tout cela, on a travaillé pour... rendre le jeu plus accessible au plus grand public. Et donc ça a aussi été une des clés, de notre succès. De plus, les jeux avant, il fallait compter une heure, deux heures, une partie de Monopoly, c'était très long. Aujourd'hui, nos jeux, le format, c'est 15, 20, 30 minutes, une heure maximum. Quoi.
Vous avez donc des jeux mythiques, je citais par exemple Les Aventuriers du Rail. Ce sera quoi les jeux de société de demain, les nouveaux best-sellers comme ceux que j'ai pu citer, Christophe Arnoux?
Alors,
sur quoi vous travaillez?
Alors là, aujourd'hui, on a une gamme qui fonctionne très très bien et qui, surfe sur le succès des escape rooms, les escape games. Donc ça, c'est toute une catégorie de jeux qui sont ce qu'on appelle des jeux qui ne se jouent qu'une seule fois. Parce qu'une fois que vous avez terminé, au bout d'une heure, le jeu, vous pouvez le donner à un de vos amis si vous le souhaitez. Et donc, on a cette catégorie d'escape room, d'escape game qui sont vraiment aujourd'hui très porteur. On a bien sûr des catégories comme le double, donc c'est des petits jeux, ce que nous on appelle apéro, parce que ce sont des jeux où là c'est un format de 10 minutes, où vous pouvez jouer avec n'importe qui et de manière très simple. Donc on a toutes ces catégories-là qui fonctionnent très bien. Et puis on a aussi développé des catégories pour les plus jeunes, comme le Monstre des couleurs qui est sorti cette année et qui a déjà un franc succès, où là on est plus sur, une relation parent-enfant, avec une mécanique de jeu très simple, mais qui véhicule des histoires, une relation qu'on va pouvoir développer avec son enfant, tout en lui apprenant le béaba, du jeu. Et ça, c'est des choses assez importantes pour nous.
C'est quoi un peu la genèse de la bonne idée? Qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui la bonne idée? Quand vous mettez vos équipes au travail, vous dites, tiens, il faut qu'on trouve une nouvelle idée. Aujourd'hui, c'est quoi un peu les ressorts?
Déjà, le ressort, c'est qu'on est beaucoup au contact du public, parce qu'on fait énormément de manifestations à travers la France et partout dans le monde. Donc on est vraiment en contact avec nos consommateurs, avec nos joueurs. Donc on est à l'écoute de ce qu'ils aiment. Et je dirais qu'il n'y a pas de bonnes idées. C'est que c'est surtout de sentir un peu quelles sont les tendances du moment, savoir si ce sont des jeux plus d'action, de casse-tête, si c'est des jeux type plutôt... narratif, comme un peu les jeux de rôle ou autre. Donc aujourd'hui, c'est surtout un échange avec notre public. On a des auteurs avec lesquels on travaille qui sont aussi toujours à l'écoute de ce qui se fait en termes de tendance, en termes d'univers aussi. Et donc, il n'y a pas de bonne idée. C'est vraiment C'est vraiment une écoute et un partage avec notre consommateur.
Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui parce que les grands noms du jeu, Toys R Us, mais même la Grande Récré ou même dans une moindre mesure Jouet Club, connaissent de vraies difficultés, des magasins fermes, notamment à cause d'Amazon, où là on imagine quand même que la relation avec vos joueurs est un poil plus limitée. Est-ce que ça vous inquiète la façon dont on vend les jeux aujourd'hui et qui pourrait amener au fait qu'il y ait moins d'interactions ?
Oui, le marché de la distribution en France change. Bien évidemment, un acteur comme Amazon prend de plus en plus de parts de marché et ça, c'est...
Par exemple, chez vous, ça représente combien ?
Chez nous, c'est assez peu par rapport à, j'irais, à d'autres secteurs d'activité. On est à moins de 10%. Et aujourd'hui, on a vraiment une relation avec nos boutiques parce que chez Asmodée, on travaille en trois niveaux, on va dire. On a les petites boutiques où on parle de 800 boutiques en France avec lesquelles c'est vraiment des boutiques de spécialistes centre-ville plutôt tenues par 2-3 personnes où là, il y a du conseil avec vraiment tous nos jeux, 100% de notre catalogue. Après, on travaille aussi avec les spécialistes, les Toys R Us, les Grandes Récré, Jouets Club, on ne va pas tous les citer, mais eux ont à peu près nos 20% de nos succès, 20% de notre catalogue, on va dire. Et donc, eux, aujourd'hui, connaissent certaines difficultés comme on l'a pu le voir dans la presse l'année dernière. Donc, on est bien sûr attentif à ce qui se passe à ce niveau-là. Et après, on a tout ce qui est l'alimentaire, où là, on n'a qu'une dizaine de titres. Voilà. Notre système, il est vraiment pyramidal, avec une grosse base sur les petites boutiques, qui, elles, se portent bien. Et donc, on a beaucoup de contacts avec nos consommateurs à travers ces petites boutiques et à travers les manifestations qu'on sponsor aussi toute l'année.
Eh bien, on va souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous et à tous nos auditeurs. Un grand merci, Christophe Arnoux, à la tête donc d'Asmodée, l'un des grands noms du jeu de société en France. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe.
Merci à vous. On vous dit à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Le grand blocage, titre Le Figaro, qui rappelle que demain, à la veille de la présentation du projet de réforme des retraites, les syndicats se mobilisent de nouveau pour tenter de paralyser le pays. Une foule qui manifeste à la une de Libération avec ce titre « De Saint-Brieuc à Périgueux, au cœur de la colère ». 800 000 manifestants jeudi dernier dans tout le pays. Combien ce mardi ? Si la mobilisation est forte en Île-de-France, elle l'est tout autant en province où les défilés ont été massifs. Retraite, cette façon de fissurer le front, titre le journal L'Opinion. Édouard Philippe présentera la réforme mercredi, au 7e jour d'une grève extrême dans les transports. Il tentera d'isoler les durs des régimes spéciaux sans renoncer pour autant au fond de son projet. La réforme des retraites ne pourrait concerner que les Français nés après 1975, c'est ce que croient savoir les Échos. L'exécutif semble prêt à des concessions importantes sur le calendrier d'entrée en vigueur. On est guère plus avancé, estime quant à elle Florence Chédotal dans le journal La Montagne, comme un amuse-bouche pour patienter jusqu'à jeudi midi et qui ne pouvait que laisser l'auditoire sur sa faim. À contre-temps, Jean-Paul Delevoye assurait la première partie factuelle, juste pour la forme, entre deux quais bondés et quelques préavis de grève destinés à mettre un gros coup de pression à celui que tout le monde attend sur la scène sociale. Édouard Philippe poussé en première ligne, tandis qu'en coulisses, Emmanuel Macron garde le silence. Mais chacun sait que c'est ce dernier qui assumera le coût politique de la prestation. Pourquoi les enseignants se mobilisent ? Titre de son côté le journal La Croix. La profession redoute une réforme des retraites pénalisante si elle est appliquée sans revalorisation salariale. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy revient quant à lui sur la condamnation de Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire de la perquisition houleuse du siège de la France Insoumise. On en parlait aussi tout à l'heure dans le journal. Il a raté le coche, écrit-il. Lui à qui avait pu s'enorgueillir d'un honorable score à la présidentielle de 2012, 11%, puis d'un exploit en 2017, 20%, en est aujourd'hui réduit à courir, non pas après la gloire, mais presque après une certaine crédibilité. Son attitude vient de lui valoir 3 mois de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende. Qu'à cela ne tienne, le voilà maintenant autoproclamé rebelle officiel, jusqu'à dénoncer un procès politique. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très bon début de semaine à vous Olivier.
À vous aussi Isabelle et à tout à l'heure surtout.
À tout à l'heure.